ces questions que nous avons posées. J'aimerais obtenir des précisions supplémentaires et j'aimerais donc poser quelques questions complémentaires. En ce qui concerne l'indérogeabilité et le principe de nécessité constitutionnelle. Je vous remercie pour l'analyse juridique assez élaborée qui nous a été présentée. Mais pour mieux comprendre, pour que le comité comprenne mieux, nous aimerions savoir s'il y a des circonstances dans lesquelles on pourrait déroger à ce droit. On a parlé du seuil dans les discussions. Est-ce qu'il y a un moment où l'on dirait le droit norvégien autorise les dérogations ou alors est-ce que c'est quelque chose qui ne peut pas du tout se produire? Nous aimerions donc avoir une réponse directe. Est-ce que l'on peut déroger à ce droit selon les circonstances? En tout cas, merci pour les bonnes explications que vous nous avez données sur la nécessité constitutionnelle. Deuxième question. Alors, s'agissant de ce terme dont je ne suis pas nécessairement tombée amoureuse, mais que je répète, de badetir, les tentatives de commission de l'infraction, est-ce qu'elles sont couvertes? Je pose la question parce que vous avez expliqué que cela pourrait couvrir tous les aspects que j'ai évoqués. Mais est-ce que les tentatives de commission de l'infraction sont aussi couvertes? Troisième question, les crimes contre l'humanité. Et à cet égard, j'aimerais vous renvoyer au paragraphe 8 de la liste des points. Vous pourrez y jeter un coup d'œil maintenant ou plus tard. Mais au moment de discuter des circonstances qui feraient d'une disparition forcée un crime contre l'humanité, une déclaration est faite, c'est une disparition involontaire, etc. Donc c'est le terme disparition involontaire. Est-ce que c'est utilisé de façon interchangeable avec disparition forcée? J'aimerais que vous m'expliquiez la différence entre disparition involontaire et disparition forcée pour que je puisse mieux comprendre cette référence à la disparition involontaire dans ce contexte. Et je vous renvoie à l'article 5, paragraphe 8 de la liste de points. Et je pose la question parce que la réponse ne semble pas vraiment fournir une bonne réponse à la question. Et pour finir, je vous remercie pour les informations données sur les peines minimales. Merci pour ces réponses. Vous avez dit que l'on discutait de ces peines minimales qui étaient critiquées. Et à cet égard, vous pourriez peut-être nous donner davantage de détails, nous dire quelle est la nature, la teneur de ces discussions. Est-ce que cela signifie que les peines minimales pourraient être supprimées? Est-ce que c'est simplement une de ces discussions interminables? Et je comprends que ce ne soit pas la question principale parmi les questions que je pose, mais ces peines sont tellement importantes et lorsque vous parlez des procédures, je pense que le comité aimerait savoir où l'on en est. Et quelles sont les perspectives de ces discussions pour que nous sachions quelles pourraient être les conséquences sur les obligations de l'État partie au titre de la Convention. Voilà mes questions. Je reviendrai peut-être plus tard. Merci, Monsieur le Président. En tout cas, merci pour vos réponses très détaillées, très édifiantes. Ce sont des explications claires, une analyse juridique rigoureuse. Merci, Monsieur le Président. Oui, merci beaucoup pour ces réponses précises et complètes. J'aimerais poser quelques questions complémentaires. D'abord,